Si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu à l'Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. » Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux, sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Alors, je voulais vous asseoir. Alors, on continue ce qu'on avait débuté la semaine dernière. On avait donné comme titre « La colère de Dieu » qui est exprimée dans le verset 1. La colère de Dieu qui est exaltée dans les versets 2 à 4 et la colère de Dieu qui est exécutée dans les versets 5 à 8. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on a regardé la semaine dernière et on va poursuivre jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Je suis en train de préparer le chapitre 16. Je peux vous dire que l'Apocalypse, pour moi, en tout cas, là, depuis que j'ai commencé l'étude de cela, ça me bénit profondément. Tu sais, le verset 3 du chapitre 1 qui dit « Heureux celui qui lit ». Il faut prendre les paroles du Seigneur au sérieux. Le Seigneur nous bénit lorsqu'on lit le livre et qu'on le lit dans un esprit de découverte de sa personne. Parce que c'est ça la révélation. L'Apocalypse, c'est la découverte de la personne de Christ. Si depuis le début, dans 15 chapitres, on n'a pas découvert qui était Christ? Quelque part, on a manqué le bateau, là, parce que c'est le but de tout le livre de l'Apocalypse. C'est d'une grande richesse. Il nous reste quelques chapitres à faire. J'avoue que je trouve le livre difficile à ramasser. Parce que là, si tu ce que je disais à certaines personnes, le livre de l'Apocalypse, si tu te mets à regarder dans 56 commentaires avec des perspectives et des convictions théologiques différentes, tu vas devenir l'homme le plus mêlé de la terre. Parce qu'il y a vraiment, tout est dit, il y a une multitude de choses plus ou moins intelligentes qui ont été dites. Moi, je me limite et j'essaie d'aller garder les réformés. Les réformés baptistes, et à quelque part, ça donne une cohésion à tout ce qu'on est en train de voir. Sinon, ben là, si je me mettais à aller vous dire, « Oh, mais il y en a qui disent que ça veut dire ça, puis il y en a qui disent que ça veut dire ça », vous auriez fini le livre de l'Apocalypse, puis tu dirais, à fin de compte, tu nous as juste dit ce que les autres disent, mais tu nous as pas dit ce que toi, tu pensais. Ou ben non, ce que je crois, en suivant les réformés, ben je crois qu'on arrive plus à une compréhension que je crois exacte et que je crois intelligente du livre. Parce que le livre a pour but de nous révéler la personne de Christ. On ne devrait pas passer une étude du livre de l'Apocalypse sans qu'on ait découvert quelque chose de glorieux sur la personne de Christ. Alors, c'est un peu le but de... Alors, ici, on parle de la colère de Dieu. Alors, l'idée qu'on avait mentionnée la semaine dernière, c'était vraiment que comme les chapitres 13 et 14 étaient deux livres très intimement liés, le livre 15, les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse sont aussi intimement liés. Si on manque ce bateau-là, on manque un gros bateau. Alors, les auteurs nous avaient dit, par exemple, Oxema nous avait dit que ces deux chapitres vont ensemble et ils sont liés de telle manière que notre présent chapitre sert d'introduction au chapitre 16. Alors, quand on commence le chapitre 15, il est en train de nous dire que le chapitre 15, c'est une introduction au chapitre 16. Alors, ce qu'on avait regardé la semaine dernière, c'est que les événements et les sept coupes de la colère de Dieu sont-ils appliqués tout au long de l'histoire, depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour, ou arriveront-ils uniquement dans les derniers jours, la période, autrement dit, précédant immédiatement la deuxième venue du Seigneur? Très important de saisir ce qu'il est en train de dire ici. Ce qu'il parle dans le chapitre 15, est-ce que c'est quelque chose qui s'appliquait uniquement vers les temps de la fin? Et il y en a qui interprètent ça comme cela. Et ou bien non, c'est quelque chose qui s'est accompli, réalisé tout au long de l'histoire de l'Église. On avait répondu que c'était tout au long de l'histoire de l'Église, mais qu'il y a une vérité en disant que les choses, avec un accent particulier pour les choses de la fin. Alors, on avait vu le verset 1, la colère de Dieu qui est exprimée. On avait vu un mot important dans le verset 1. Et je le relis avec la version où on dit prodige. Et je vis dans le ciel un autre prodige, grand et admirable. Cet ange qui tenait les sept dernières plaies, et c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. On avait mentionné l'idée que dans certaines versions, on parle du mot signe. Dans d'autres versions, on utilise le mot prodige. Alors, on croit que le mot prodige est plus approprié parce que, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il voit quelque chose de grand et admirable dans le ciel. Il voit que Dieu il commande à ses anges de déverser sur la terre. 13 et 14, on parlait de la bête, on parlait de la bête, la bête politique, la bête religieuse. Et là, le Seigneur est en train de commander à ses anges de déverser la colère de Dieu sur les hommes. Alors, le dragon, on avait vu que c'était vraiment grand et admirable. Dieu veut qu'on sache que le signe est grand, qu'il exprime quelque chose de grandiose et d'extraordinaire, et qu'il jette vraiment une lumière sur l'histoire de l'Église et sur l'histoire du monde. L'idée aussi, dans le premier verset, on parle de sept anges et sept dernières plaies. On sait que dans les Écritures, quand le Seigneur, par l'Esprit-Saint, utilise le chiffre sept, il parle toujours de complétude, il parle toujours de perfection. Il utilise sept anges, puis il utilise sept plaies. Il est en train de parler que la punition que le Seigneur va envoyer sur les méchants de la terre va être accompli à la perfection. Très important de saisir ça. Parce que ça dit aussi, car c'est par elle, il parle des plaies, c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Donc, la colère de Dieu, c'est important pour nous autres de réaliser au 21e siècle, quand on parle de colère, nous, quand on parle de colère, là, on parle de quelqu'un qui a perdu les pédales, puis que le tempérament l'emmène dans toutes sortes d'abus. On parle de colère humaine. La colère humaine, elle est très, très, très souvent pécheresse. Ici, on ne parle pas d'une colère pécheresse. On parle de l'exécution de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est donner aux hommes la juste rétribution de ce que vaut leur péché. Il n'y a rien de colérique de quelqu'un qui part dans toutes les directions de perte de contrôle, autrement dit. Tandis que nous, nos colères, moi je sais que j'en ai fait dans ma vie des colères, puis je sais que quand que je pars en peur, c'est rare que je ne fais pas des très graves péchés. La colère humaine est souvent très pécheresse. La colère de Dieu, il n'y a aucun péché dans la colère de Dieu, c'est uniquement l'exécution de ce que vaut la rétribution que le Seigneur veut donner aux pécheurs. Et là, la coupe est pleine. Parce que, justement, on vit dans les temps de la fin. La religion mondiale est presque établie. Le gouvernement mondial est presque établi. On est rendu dans ce que la Bible nous décrivait dans 13 et 14, les chapitres 13 et 14. Alors, le Seigneur est en train de nous dire que, éventuellement, ce qui est marqué là, vers l'État, plus on va s'approcher des temps de la fin, plus le Seigneur va amener le jugement sur, à la fois, ces deux grandes choses-là, le dragon et la bête politique et la bête religieuse, éventuellement. Alors, la colère, après cette brève mention sur ce qu'est la colère de Dieu. Alors, lorsque la colère de Dieu s'exprime, elle provoque deux principales réactions. Celle du peuple de Dieu et celle des pécheurs impénitents. Ça, c'est vraiment intéressant de voir dans les versets. C'est que normalement, nous, quand on voit une colère humaine s'exprimer, on filera pour pas être là. On n'applaudit pas. On vient tout croche dans nos... n'est-ce pas? C'est ça que ça fait. Mais ici, on voit la colère de Dieu qui s'exprime, puis les saints qui sont dans le ciel, ils jubilent de joie. C'est normal. On se dit, ça se peut-tu que des gens sont rendus au ciel? Ils voient que le Seigneur va emmener ses jugements sur la terre. Ils sont contents, ils chantent. Il chante le chant de Moïse, puis le cantique de l'agneau. T'sais, on peut se demander, comment ça se fait que les êtres qui sont déjà au ciel se réjouissent de ce que le Seigneur va envoyer pour punir les méchants? Ben, c'est ça que la Bible nous dit. La colère de Dieu, dans les versets 2 à 4, elle est exaltée. Exaltée, ça veut dire placée haut. On la place haut, pourquoi? Parce que les gens ont vu toutes les malheurs, toutes les souffrances que la bête politique et religieuse a amenées sur la terre, et c'est énorme. Si on la voyait toute d'un coup sec, là, eux, ils ont vu ça, ils ont observé ça, et là, ils se rendent compte que Dieu est rendu au moment où il dit à ses anges, maintenant, c'est le temps de payer. Comme il dit en anglais, payday, it's now payday, c'est le jour de la paye maintenant. Alors, verset 2, là, il nous dit qu'il voit comme une mer de verre, mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête. Il parle de qui, là, ceux qui avaient vaincu la bête? C'est ceux qui, sur la terre, durant la période de l'établissement du gouvernement et de la religion mondiale, ont vaincu. Ça veut dire que tu peux avoir perdu la vie durant cette période-là, tellement ça a été intense, cette guerre-là. Tu peux avoir perdu la liberté, tu peux avoir vécu l'emprisonnement, tu peux avoir vécu plein de choses. Mais même si tu es allé en prison, mais même si on t'a emmené à la mort, des fois on y pense, hein, c'est ainsi, là, qu'est-ce qui se passe? Là. On y pense à la mort, c'est normal qu'on y pense. Ben, ça ne nous fait pas peur, parce que pourquoi un chrétien qui est établi, qui est affirmé, même s'il a peur, disons, s'il a peur, c'est peut-être parce qu'il est trop centré sur lui-même et pas assez sur Dieu. S'il serait vraiment affirmé, peu importe ce que les hommes veulent te faire, t'es gagnant, t'es un winner, comme ils disent. Alors, t'es gagnant, t'es sûr que tu vas aller au bon endroit, peu importe ce qu'ils vont faire. Pourquoi on s'énerve? On s'énerve parce qu'on est humain, on est peureux, on met trop l'emphase sur notre nombril de passer sur Dieu. C'est ça la raison. Alors, il nous dit que ces gens-là, qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Dieu leur a donné un moyen d'expression. Les harpes viennent elles-mêmes de Dieu. Et ils fêtent ça. C'est rare que tu fêtes une colère. Moi, quand j'ai fait des colères, je peux vous dire autour de moi, c'est rare que les gens ont dit « Ah ben Marcel, on va fêter ta colère. » Ils ont plutôt le goût de dire « On espère qu'on n'en verra pas un autre. » OK. Donc, l'identité des victorieux, c'est les vainqueurs. Et il y a quelque chose qui est mentionné, c'est l'histoire qu'ils sont debout. Tu sais, quand on dit quelqu'un se tient debout, là, tu dis, il va rencontrer des difficultés, j'espère qu'il va se tenir debout. Tu sais, ils se tiennent debout. Ils ont gagné, sont au ciel, sont déjà, et ils ont les harpes de Dieu. Et verset 3, « Et ils chantaient. » On voit la colère de Dieu qui est sur le bord de se déverser sur les hommes, et ça te fait chanter. Moi, quand j'ai vu des colères chez les hommes, là, je peux vous dire une chose, ça ne m'a pas donné le goût de chanter. Ici, on voit la colère de Dieu parce que les gens qui voient la colère de Dieu, ils voient que Dieu va leur donner exactement, exactement ce qu'ils méritent. Et ils vont chanter deux cantiques. Le cantique, c'est-à-dire deux cantiques, c'est comme un, c'est l'Ancien Testament, le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. On fait référence à Exode, quand le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte et que les eaux se sont ouvertes. Bon, c'est de ça qu'on fait référence. Puis après qu'ils ont été passés, là, ben, le chapitre suivant, là, c'est le cantique de Moïse. Si vous retournez dans Exode, je pense que c'est 16, je ne me trompe pas. Là, vous avez le cantique de Moïse où Moïse loue Dieu de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire avec son peuple. Il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau. Serviteur de Dieu, l'image de la libération du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, donc le peuple de l'Ancien Testament, et il relie avec le Nouveau. C'est vraiment tout le peuple de Dieu, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et le cantique de l'agneau, en disant, ils chantent, puis ils nous disent les mots de la chanson, on pourrait dire, les mots du cantique. Tes œuvres sont grandes et admirables. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ils reconnaissent la toute-puissance de Dieu, à la fois dans ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, fait passer le peuple à travers ouvrir le... Et à la fois, nous, on était dans le monde. C'est ça l'image. L'Égypte, c'est le monde. Le Seigneur nous a fait sortir du monde pour lui appartenir et pour le suivre. Et là, il leur dit... Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Jésus est notre Roi. Il est notre Roi. Il chantait, et c'est vraiment le mot christocentrisque, c'est qu'à la fois dans le cantique de Moïse et à la fois dans le cantique de l'agneau, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est centrale. Christocentré. C'est très important de réaliser cela. Et ils adorent. Parce que quand ils chantent, en même temps, ils louent le Seigneur en lui disant qu'est-ce qu'ils ont vécu. On va parler de quand il dit tes œuvres sont grandes et admirables. Moi, j'en ai mis trois. Parce que dans le fond, si tu voudrais parler de toutes les œuvres de Dieu au cours de toute l'histoire de l'être humain, je pense qu'il faudrait que tu en mettes au moins trois. Il faudrait que tu mettes la création, il faudrait que tu mettes la providence, puis il faudrait que tu mettes la rédemption. On parle de trois œuvres, mais que de choses il y aurait à dire sur ces trois affaires-là. La création à partir du néant. La voix de Dieu qui est suffisamment puissante pour créer l'univers. Quand on se met à regarder qu'est-ce que c'est le nombre d'étoiles, les planètes, les galaxies, c'est hallucinant. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Hallucinant. Avec ta voix, même pas avec tes mains, là. Avec ta voix. Tu parles et ça existe. Il parle et ça existe. Et quand il dit tes œuvres sont grandes et admirables, on peut-tu dire mieux que ça pour parler de la création? La providence, c'est l'ensemble de toutes les actions que le Seigneur permet, qui se réalisent dans nos vies pour des raisons sages, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous rapprocher de lui. Au cours de toute l'histoire, à partir du début d'Adam et Ève, aller jusqu'à la fin, c'est ça la providence de Dieu. Dieu a tout planifié, tout ce qui nous arrive, tout ce qui va nous arriver, et ça, tout ça, ça a un but. Ça aussi, c'est grand et admirable. Quand je regarde ma propre vie, moi j'ai été sauvé à 33 ans, je suis parti pour faire un bandit, puis un fond de prison. Puis je me vante pas en disant ça, c'est à ça la réalité. Je suis parti pour prendre un gars qui est rendu là, qui s'en va là, puis le transformer pour qu'il arrête de s'en aller dans cette direction-là, c'est grand puis c'est admirable aussi. Parce que les gens qui t'ont vraiment connu à l'époque où tu aurais pu devenir un bandit, puis qui te voient maintenant, hein, toi, pasteur, tu te dis, c'est pas sérieux, toi? Ben oui, le Seigneur est capable de faire ça. Puis il l'a fait avec chacun d'entre nous, pas de la même façon, pas au même moment, pas de la même manière, mais il l'a fait avec chacun d'entre nous. Il nous a libérés. Quand on s'arrête, puis on parle de l'œuvre de la rédemption, à penser qu'on était condamnés, toute la gang ici présente, il n'y a pas un qui échappe, à l'enfer éternel, faudrait s'arrêter des fois à réfléchir à ce que ça veut dire, l'enfer éternel. Tu es plongé dans un lac de feu pour l'éternité, entouré des anges mauvais et de tous les bandits de la terre, tous ceux qui ne se sont pas repentis. Tu vas vivre là-dedans l'éternité. Et là, le Seigneur est venu te libérer de cela, te pardonner tes péchés, et au lieu de te faire vivre là pour l'éternité, il va te faire vivre dans le ciel pour l'éternité. Quand ils chantent toutes les à la gang, là, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Dieu Tout-Puissant. Certains qui ont tes œuvres, au pluriel, sont grandes. Là, on pourrait en parler. Chacune des trois œuvres, là, on pourrait développer ad vitam aeternam, comme on pourrait dire. Alors, on était rendu là. On était rendu au verset 4. Et là, eux autres, après avoir entendu que Dieu veut juger les gens de la terre, les méchants de la terre, les pécheurs impénitents, ils disent, « Seigneur, qui ne te craindrait et ne glorifierait ton nom? Car tu es le seul saint. Aussi, toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face, parce que tes jugements ont été manifestés. » Les gens vont venir, imaginez-vous, les pécheurs, là on parle des pécheurs, les pécheurs impénitents vont reconnaître que les jugements de Dieu ont été rendus visibles et observables, manifestés. Tes jugements ont été manifestés et ils vont le reconnaître, imaginez-vous. Il y a quelque chose de spécial là-dedans ici, là, parce que tes jugements ont été manifestés. Les élus saisissent pleinement l'obligation universelle de tous les hommes à deux choses qui est mentionnée dans le texte. La crainte de Dieu et l'obligation de chaque homme à le glorifier. C'est ça que ça dit. Et ça dit, les nations viendront et se prosterneront devant ta face parce que tes jugements ont été... Et là, ils veulent que les gens comprennent que cette obligation-là trouve sa justification dans le fait que Dieu est le seul saint. Seul saint avec un S majuscule. Donc, ils veulent rappeler que les hommes, c'est leur devoir, leur obligation d'adorer Dieu. La prosternation, ça veut dire l'adoration. Imaginez-vous des pécheurs impénitents qui un jour vont ployer le genou devant. Ils vont reconnaître que ce que Dieu envoie, c'était bien correct comme ça. Alors, ils vont reconnaître le devoir d'adorer et ils vont reconnaître aussi que toute leur vie, notre devoir comme chrétiens, nous, c'est craindre Dieu et lui donner gloire. Si on fait quelque chose dans une journée qui ne va pas dans le sens de glorifier Dieu, c'est un geste, c'est quelque chose qui est sans valeur aux yeux de Dieu. On devrait tout faire, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actions, notre vie de prière, notre vie de lecture des Écritures, tout a un seul but, glorifier Dieu. Et on était rendu au verset 5 à 8. On voit que, après cela, je regardai, et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel, et les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin fin et éclatant, d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine de ceinture d'or. Les sept anges n'agissent pas de leur propre initiative. Ils obéissent à un ordre de Dieu pour celui qui est d'exécuter ses jugements sur les hommes impénitents. Alors, je reproduis ici une citation du pasteur Paulin Bédard qui étudie l'Apocalypse et le passage que j'ai trouvé intéressant qui nous fait une observation par rapport à ces paroles-là. Alors, il dit, « Le sanctuaire du tabernacle est l'équivalent céleste du tabernacle construit par Israël dans le désert après leur sortie d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, le sanctuaire du tabernacle devait rester fermé en permanence, sauf lorsque le grand prêtre y entrait une fois par année pour offrir le sacrifice d'expiation pour le peuple. Aujourd'hui, le sanctuaire céleste est ouvert par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, afin que nous puissions y entrer librement. Le tabernacle de l'Ancien Testament représente donc la grâce de Dieu qui daigne habiter au milieu de son peuple grâce au sacrifice d'animaux offerts devant lui. Il représente également la justice et la sainteté de Dieu, car le témoignage désignait les 10 commandements placés dans l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. La loi de Dieu est le témoignage qui révèle sa juste volonté. Ici, le sanctuaire du tabernacle est ouvert, non pas pour y laisser entrer des gens, mais pour y laisser sortir les sept anges tenant les sept plaies. La merveilleuse présence de Dieu au milieu de son peuple est également une terrible menace pour ceux qui persécutent son peuple et qui rejettent le témoignage de Dieu. Tous ceux qui rejettent la grâce du salut s'attirent sur eux-mêmes la condamnation. Dieu est sur le point de révéler sa justice dans le lieu céleste où il demeure. Il enverra des jugements sur la terre contre ceux qui rejettent son témoignage. Leurs vêtements blancs en lin pur, attestent leur sainteté. Les ceintures d'or autour de leur poitrine ajoutent une splendeur royale à leur apparence. Cette tenue ressemble à celle du Fils de l'homme en l'Apocalypse 1:13. Cela peut signifier qu'ils sont associés au Fils de l'homme et qu'ils agissent en tant que ses représentants. Ils s'en vont exécuter sa volonté et déverser ses jugements sur la terre. C'est l'emblème de la dignité et de l'autorité du Seigneur. Verset 7, il dit, « Puis, un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » Quand on parle d'un des quatre animaux, on peut se poser la question, c'est quoi, c'est des animaux dans le ciel? Quelque part, il faut répondre à cette question-là. Alors, moi, j'utilise John Gill assez souvent parce que c'est un pasteur réformé baptiste qui avait une culture. À côté de lui, je suis un deux de pique, même pas, je mérite même pas de deux de pique. C'était un homme d'une culture biblique, qui connaissait l'hébreu, le grec, le latin. Il avait tout lu la littérature hébreu de l'époque. fin des années 1700. Tout lu ce que les Juifs avaient écrit. C'est un homme d'une... Pour moi, il m'impressionne très fort. En tout cas, le pasteur réformé baptiste anglais, bibliste, érudit et théologien qui a vécu de 1697 à 1771, donne une explication très détaillée sur les quatre animaux, ou certaines versions qui appellent les quatre créatures vivantes, dans son commentaire sur l'Apocalypse. Il affirme, après un long développement logique et scripturaire, je ne dirai pas en anglais, je vais juste vous traduire, là, je l'ai fait par Google Traduction, il dit, par ces quatre êtres vivants, je crois que nous devons comprendre les ministres de l'Évangile en général dans les âges successifs de l'Église. Ça nous aide à comprendre. Et on parle de sept coupes d'or. Les coupes sont d'or pour indiquer leur préciosité parce que préparées par Dieu lui-même pour punir les impénitents de manière juste et parfaitement appropriée. Le chiffre 7 parle de plénitude, de quelque chose de parfait et de complet. Elles sont pleines de la fureur et du courroux de Dieu. Le Seigneur utilise l'image de la coupe pour illustrer un principe qu'il a utilisé dans le passé, à savoir l'utilisation de la coupe de la colère, d'abord sur son propre peuple, puis sur les ennemis qui ont fait souffrir son peuple. Regardons Ésaïe, chapitre 51, les versets 17 et les versets 21 à 23. On va voir, si vous portez attention à la lecture du passage, où le Seigneur parle des coupes, dans le sens qu'il va déverser sa coupe à la fois sur son peuple et sur les... Il faut prendre le Seigneur au sérieux, hein. Quand il dit qu'il déverse sa colère sur son peuple, on est mieux de surveiller ce qu'on fait aussi, nous autres, comme on lui appartient. On ne peut pas vivre n'importe comment. Verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel la coupe de sa colère. » En train de parler de qui, le peuple de Dieu? Après ça, verset 21 à 23, « C'est pourquoi, écoute donc ceci, malheureuse, toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui l'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient, allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présentais alors ton dos en guise de sol, de rue pour les passants. » T'es en train de dire deux choses. La coupe est utilisée pour parler de la colère de Dieu sur son propre peuple et parler de la colère de Dieu sur les pécheurs impénitents. Et là, il mentionne l'idée qui vit au siècle des siècles. Pourquoi Dieu peut déverser une colère comme ça sur tous les hommes de toutes les époques, de tous les temps? C'est parce qu'il est omniscient. Étant omniscient, il sait ce que les hommes ont pensé dans toutes les époques, il sait ce que les hommes ont dit dans toutes les époques, il sait ce que les hommes ont fait dans toutes les époques, il sait ce que les hommes n'ont pas obéi dans toutes les époques. Pourquoi il est omniscient? Alors, il était omniscient de toutes les pensées, de toutes les paroles, de toutes les actions, de toutes les omissions et de toutes les fautes secrètes des hommes pécheurs de toutes les époques, et ceci dans les plus intimes détails. Tu sais, des fois, on s'imagine que le Seigneur, il va y en échapper une petite. Tu sais, des fois, on dit ça quand on parle des hommes, il y en a passé une petite vite. On n'en passera pas de petite vite au Seigneur. Alors, verset 8, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent accompli. Le temple est rempli de fumée, qui est un symbole de l'assouvissement de la sainte colère de Dieu. Le temps de la grâce a pris fin. La présence de Dieu est tellement glorieuse que même les êtres célestes ne peuvent pas demeurer en sa présence. Dieu lui-même est l'exécuteur de ses jugements et personne n'est capable d'entrer dans le temple tant qu'il n'a pas terminé l'exécution des plaies au moyen des sept anges. Bien sûr, les prières des saints sont répondues par... On a prié le Seigneur pour toutes sortes de choses, lui demandant justice, lui demandant... Et dans le fond, quand il envoie ça, là, c'est la réponse, en partie la réponse de nos prières. Trois applications du texte qu'on étudie aujourd'hui. La première, quand le Seigneur exprime sa colère envers les pécheurs impénitents, les élus, déjà au ciel, sont dans la joie, les cantiques, la louange et l'admiration. Cette colère s'exprimera avec perfection et justice, le fait des sept anges et les sept plaies, ce sera prodigieux. C'est pour ça qu'on dit au début, on parle du mot prodige, ça va être vraiment prodigieux. Il n'y a pas un être humain qui a été sauvé par Dieu qui ne se délectera pas de ce que Dieu va faire. Et quand on dit, il va punir, mais dans la proportion et dans les péchés que les êtres humains ont fait. Le Seigneur a une sagesse dans sa façon de punir qui est extraordinaire. Deuxième application, les jugements révéleront énormément de choses sur le Seigneur. La gloire de ses œuvres, la création, la providence, la rédemption, les merveilles de ses voies, sa justice et sa vérité, sa souveraineté, sa toute-puissance et l'ensemble de ses perfections. Dans tout ce que le Seigneur va permettre que les hommes reçoivent comme punition des pécheurs impénitents, tous les attributs de Dieu, sans exception, vont se manifester, vont être rendus visibles. Justice, sagesse, amour, miséricorde, tout ça va être rendu visible. Extraordinaire. Tous les élus revendiqueront que tous les hommes, sans exception, doivent la crainte, l'honneur et l'adoration à Dieu, car tous ces jugements sont manifestes et perceptibles. Les gens vont se rendre, ils vont voir que ce que Dieu fait, puis ils vont se rendre compte que c'est parfait ce que tu fais. C'est exactement ça qu'il avait besoin. C'est la justice divine. Et troisième application, implorons le Seigneur de nous donner une compréhension plus claire et plus complète de ce que signifie sa colère, sa profondeur, sa certitude, son accomplissement inexorable et irréversible et le reflet de sa sévérité. Souvent, quand on lit les Écritures, qu'on arrive sur un passage, considérer la bonté, on n'a pas de misère avec ça. On peut en nommer des bontés du Seigneur dans nos vies. Mais quand il dit en même temps, dans la même phrase, considérer la bonté et la sévérité du Seigneur. Quand le Seigneur exerce sa sévérité, il y a de quoi avoir peur, comme on dit. Alors, le reflet de sa sévérité. Prions pour plus de crainte de Dieu et partageons le glorieux évangile de Jésus-Christ autour de nous par sa grâce et pour sa gloire. Amen.